Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After Live. Une grande soirée, 4 heures à vos côtés pour le lancement de la 33e journée de Ligue 1 avec deux destins croisés évidemment. Lens qui touche la Ligue des Champions du bout des doigts et Nantes qui se dirige vers la Ligue 2. Voilà le programme. À mes côtés, Florent Gautreau. Salut Flo.
Salut Karine, salut à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien.
On va se projeter sur cette 33e journée. On le rappelle, hein, normalement, on devrait avoir tous les matchs au même horaire pour évidemment qu'il y ait une équité sportive totale. Mais avec la LFP, il y a toujours des petites différences et des petites exceptions. C'est le cas ce soir. Donc Lens, Nantes, on va tout de suite prendre la direction de Bollard pour retrouver notre duo de commentateurs, Jean Baumel et Aurélien Tiercin. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut Flo, bonsoir à toutes et à tous.
Salut les amis.
Salut les gars.
Messieurs, on va parler évidemment des deux clubs. On l'a dit, ce sont deux objectifs très différents. Lens qui a le sourire, Lens qui rêve de marquer ce petit point synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Et puis Nantes est au bord du précipice. La Ligue 2 lui tend les bras. On va s'intéresser déjà à l'ambiance. Jibo, comment est-elle du côté de Lens? Lens qui reste sur deux nuls consécutifs.
Bah pour l'instant c'est assez calme, hein. Il y a même pas la moitié du stade qui est rempli. On est quand même au 85e match à guichet fermé consécutif en match officiel. Donc c'est une série qui va encore durer très longtemps puisqu'il y aura la Ligue des Champions certainement la saison prochaine et on va s'arracher les abonnements. Hein. C'est 29 000 pas plus. Hein. Et il reste 9 000 billets pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc le stade était un peu trop petit mais c'est comme ça. Mais il y aura une énorme ambiance assez certain parce que si à l'issue de cette soirée il y a un point, bah c'est la Ligue des Champions dans la poche, mais si à victoire surtout c'est la deuxième place qui est assurée. Et donc ça permettra d'avoir un match de gala à moins que le Paris Saint-Germain s'écroule totalement et qu'on va relancer, on va reparler de titre, mais on n'y croit pas trop ici en tout cas. Et un dernier match à Lyon avant cette fameuse finale de Coupe de France face à Nice, mais le vendredi 22 mai.
Mais l'ambiance était quand même particulière à l'extérieur du stade, je trouve, Jibo, parce que là il y avait une procession avec des pots de fumée, sang et or évidemment, des drapeaux. On sent quand même qu'à l'extérieur du stade il y a une détente et un plaisir particulier.
Bah comme c'est les 120 ans, les Red Tigers, c'est les ultras du Racing Club de Lens, sont partis de la gare et ils ont fait un cortège pour arriver jusqu'au stade pour mettre un peu l'ambiance. Mais en tout cas dans l'enceinte pour l'instant, on garde son énergie pour mettre une pression sur les Nantais dès le début du match. Même si du côté lensois, il y aura des choses à raconter sur la compo et par rapport aussi aux absents.
Eh ben justement, tu vas tout nous dire parce qu'il y a des choix également de Pierre Sage, même si il y a énormément d'absents. Quel sera donc le 11 de départ pour aller chercher cette qualification pour la Ligue des Champions? On rappelle, hein, il me suffit d'un point et Lens retrouvera la Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était lors de la saison 2023-2024.
Alors il y a 5 absences et 5 titulaires quasiment assurés pour l'équipe de Pierre Sage. On va les rappeler quand même. Abdoulhamid Sangaré et Thomasson donc sont suspendus. Saint-Maximin et Thauvin sont alors pas blessés, ils sont préservés parce qu'ils ont des petits problèmes. Ils veulent surtout pas prendre de risques en vue de la semaine prochaine et des deux matchs, l'enchaînement Paris-Lyon et surtout la finale de la Coupe de France. Et on a eu, on pensait voir Sotoka, on pensait voir Aguilar qui vont rester finalement sur le banc. Et le poste de latéral droit, on a un petit point d'interrogation. Tout d'abord, Risser bien sûr dans le but. Les trois axiaux, c'est Sarr, Baïdou, Gagnou. Là, il n'y a pas de problème. Piston gauche, Udol. Et peut-être piston droit, Sima, puisque c'est pas impossible qu'il joue à ce poste-là. Ou alors il va passer à 4 et mettrait plusieurs joueurs offensifs. On aura Haïdara Abulatovic pour remplacer la paire Sangaré et Thomasson. Et donc les joueurs offensifs. Le retour de Saïd, Hodson Edouard et Ryan Fofana. Va-t-il mettre Sima latéral droit ou Sima en attaque avec un changement total de système? C'est l'une des réponses qu'on aura dès le coup d'envoi d'ici 40 minutes.
On va parler dans quelques secondes de la composition d'équipe avec Flo, mais peut-être Aurélien, tu peux nous donner également le 11 de départ nantais, même si Nantes est quasiment en Ligue 2. Tu peux nous rappeler déjà le contexte pour espérer voir Nantes jouer les barrages? Ça paraît mission impossible.
Bon, c'est archi simple. Si tu ne gagnes pas ce soir à Bollard, qui est la deuxième meilleure équipe d'Europe à domicile, si tu ne gagnes pas ce soir, tu es officiellement relégué en Ligue 2, parce qu'il y a 5 points entre le 16e Auxerre et le FC Nantes 17e. Donc la mission paraît quand même très compliquée. Vaid Halilhodžić, le coach, sait donc qu'il doit s'imposer ce soir. Il a quand même aligné un 5-3-2 avec Anthony Lopez qui revient dans les cages. Il s'était fait mal à un doigt. Il avait laissé sa place contre l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Donc Lopez dans les cages, Aouazième à Capendier et l'immense Uros Radakovic, titulaire derrière. Première titularisation de la saison pour le Serbe, qui était qualifié de joueur plus que moyen, puisque le FC Nantes, à peine recruté l'été dernier, voulait le revendre. Il n'avait pas le niveau d'un joueur pro, donc visiblement il a dû progresser durant la saison, puisqu'il a sa chance à l'antépénultième journée de championnat. Nicolas Kozza, piston gauche, Frédéric Gilbert, piston droit, Sissoko, Kaba, Le Pedant au cœur du jeu, et puis devant peut-être l'espoir nantais, c'est Ganago, Ablin, le duo qui avait fait très mal à l'Olympique de Marseille en antépénultième, ça veut dire avant-dernière, donc je me suis trompé, c'est l'avant-dernière journée de championnat pour Nantes.
Merci beaucoup. On rappelle que Nantes effectivement avait eu un petit peu de sursis le week-end dernier en battant largement Marseille 3-0. Flo, quel regard tu portes sur les choix des entraîneurs? Et aussi, moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'au final on nous explique que la 33e et 34e journée normalement sont vraiment sanctuarisées. C'est absolument pas le cas, parce qu'on joue ce soir alors que tout le monde devrait jouer en même temps, parce qu'il y a des équipes qui ont aussi des matchs en retard comme Lens. Finalement, c'est un gros bazar.
Ouais, c'est clair que c'est pas normal. C'est vrai que normalement ces deux journées là on doit pas y toucher. Après, j'ai envie de mettre un bémol ce soir, parce que Lens, et je voulais justement y revenir, c'est quasi fait, c'est-à-dire qu'ils sont deuxièmes, ils ne seront pas premiers. Nantes, c'est quasi fait, ils sont en Ligue 2. J'ai envie de dire, heureusement que ça ne joue pas, on va dire, sur la dramaturgie et sur la psychologie de cette avant-dernière journée. Maintenant, c'est vrai que ça devrait se jouer le même jour. Après, sur la compo, c'est intéressant, parce que dans ce que fait Sage, lui aussi, quelque part, il enjambe un peu ce match. Je ne dis pas qu'il le prend par-dessus la jambe, hein, mais il pense à d'autres échéances quand il préserve Thauvin et Saint-Maximin, même s'ils ont sans doute des petits soucis. On voit bien que, alors qu'il y a déjà Sangaré et Thomasson qui sont suspendus, on voit qu'il y a, voilà, il y a des choix qui sont faits aussi en vue évidemment de la finale de la Coupe et de la fin de saison, et je pense surtout à la finale de la Coupe. Donc quelque part, ce match, oui, il est important, parce qu'il va sans doute sceller quelque chose, avec, comme on l'a dit, les enjeux, un point est en Ligue des Champions, et puis défaite de Nantes, et Nantes est en Ligue 2. Mais déjà dans la compo, on sent que Pierre Sage a la tête ailleurs. Et l'autre point de la compo, à mon avis, et notamment concernant peut-être Sotoka, mais on se souvient de sa sortie violente, entre guillemets, même si on était un petit peu excusé après, sur les joueurs et les remplaçants qui n'avaient pas fait honneur au maillot. Dans les choix qu'il fait, ouais, c'est ça. Dans les choix qu'il fait, il n'a pas oublié non plus ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant, même s'il y en a qui reviennent évidemment, c'est intéressant de voir que la compo de Pierre Sage, pour moi, c'est une compo quand même qui veut dire. Écoutez, ouais, ok, on a beaucoup de respect pour Nantes, mais je pense qu'on va s'en sortir là-dessus. Ça veut dire aussi que le titre, il n'est pas fou, t'as 6 points de retard et t'as un goal à verrage très défavorable. Non, ce qu'il faut, c'est sanctuariser ce point pour aller en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Et donc, sa compo, elle montre quand même qu'il y a d'autres objectifs ailleurs.
Ouais, ce que tu dis, Flo, c'est intéressant, parce que c'est sûr que de voir Sotoka et surtout Aguilar, qui est un spécialiste du poste de latéral droit, parce que Abdoulhamid est suspendu. On verra si c'est Sima qui va ou un autre, mais ou passer à 4, mais ne pas mettre un spécialiste comme Aguilar, ça peut surprendre.
Alors Aguilar, et on sait apparemment, qu'il y a peut-être un petit souci, parce qu'apparemment il n'était pas au dernier entraînement, si j'ai bien compris.
Oui, mais bon, il est dans le groupe, il est sur le banc, donc et il faisait partie des joueurs des quatre avec Saïd, Sotoka et Masuaku, qui avait été changé assez rapidement en deuxième mi-temps à Brest. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Après, on va pas certifier qu'il est barré, qu'il y a un souci avec Aguilar, mais ça surprend un petit peu et ça peut soulever quelques regards par rapport à ce qui s'était passé à Francis Leblay.
Il y a un autre point aussi intéressant, c'est sur le staff médical, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques petits problèmes et c'est dans beaucoup de clubs que ça se passe, sur la disponibilité des joueurs, les réels problèmes physiques qu'ils peuvent avoir.
Oui, les questions autour de Baïdou, notamment.
Ouais, de Baïdou, il y en avait eu tout à fait. Et là, en tout cas, il s'en remet aussi pour préserver Thauvin Saint-Maximin. Il l'a dit en conférence de presse, avec un petit sourire d'ailleurs, il s'en remet aussi aux recommandations médicales. Donc, il y a de la gestion sur cette fin de saison, ce que je trouve moi plutôt logique, parce que pour le coup, Lens a une marge par rapport à Nantes normalement, hein, même si pour avoir vu les deux derniers matchs de Nantes très précisément, celui à Rennes et celui contre Marseille, Nantes méritait beaucoup mieux que la défaite à Rennes, et Nantes a écrasé Marseille. C'est une fin de saison qui va laisser sans doute des regrets aux Nantais.
Effectivement, des regrets. On va en parler un petit peu de Nantes avec toi, Aurélien, parce que c'est vrai que finalement, c'est une chute qui est prévisible. Ça fait plusieurs années que Nantes flirte avec la relégation. Là, tu l'as rappelé, hein, a priori, ils vont y retourner. On rappelle que la dernière relégation date de 2009 et que 4 ans après, ils étaient retournés en Ligue 1. C'est beaucoup, beaucoup de déceptions, mais un club qui se prépare déjà à la Ligue 2 la saison prochaine.
Oui, exactement. On se raconte pas trop d'histoires. Alors Vaïd essaie évidemment de motiver ses troupes en parlant de miracles qui restent toujours possibles. Mais le club se prépare à la Ligue 2, recherche un entraîneur pour la saison prochaine. D'ailleurs, il s'intéresse à Stéphane Gilly, l'ex-coach du Paris FC. Il y avait eu aussi des touches avec Pantaloni, mais ça s'est pas fait. Alors peut-être que le coach n'était pas chaud, mais visiblement Franck Kita non plus n'était pas forcément sûr à 100% du choix. Pantaloni, donc on est encore un peu dans le flou. Baptiste Drouet est parti de la cellule de recrutement en critiquant ouvertement la direction et en disant que le club était un petit peu parté à volo ces derniers mois, même si ça flirte depuis pas mal de temps avec la Ligue 2. Donc ils vont très probablement y aller, malheureusement, les Nantais. Et d'ailleurs, au 21e siècle, ce sera la troisième relégation, et à part Troyes et Metz, aucun club n'a fait pire. C'est pas une surprise de voir ce club couler, même si, comme l'a dit Flo, il y avait certainement mieux à faire et il y a eu des belles performances. Même le match au Parc, tu perds 3-0, mais la première période elle est pas du tout indigne de la part des Nantais. Ils auraient dû, à mon avis, même égaliser, mais voilà, le VAR a vu un petit hors-jeu de 2-3 cm du pauvre Louis Leroux. Mais ils sont quand même dans une meilleure dynamique depuis que Vaïd Ali Lodzic s'est installé sur le banc. Mais voilà, on se raconte pas d'histoire. La Ligue 2, c'est très probablement pour ce soir. Il y aura un match pour l'ennui absolu la semaine prochaine à la Beaujoire contre Toulouse, pour nous revoir à la Ligue 1, et puis on va se préparer tranquillement à vivre malheureusement une saison de Ligue 2 la saison prochaine à la Beaujoire.
Et c'est vrai que l'interview de Baptiste Drouet, le responsable du recrutement de Nantes, elle appuie une nouvelle fois sur ce qui fait mal à Nantes, c'est-à-dire la direction et la façon dont ça se passe. Quand il y a un bouquin sur les coulisses encore de cette saison à faire, c'est-à-dire que sur les choix, sur le fait de pas soutenir les coachs que tu mets en place, sur les clans qui existent, sur là, Baptiste Drouet s'en prend également au responsable du recrutement du centre de formation de Nantes. Donc tu sens que, comme d'habitude, et c'est ce qu'on dit depuis longtemps, à la Genolière, rien n'est carré, et pour un coach c'est l'enfer, parce que tu sais pas du tout si tu vas rester 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et c'est vrai que quand tu lis ça et quand tu sais ce qui s'est passé cette année, c'est dommage. Et Vaïd l'a dit, c'était assez intéressant quand il a dit alors bon, évidemment c'était un peu à son avantage, si j'étais arrivé quelques semaines plus tôt, je pense que c'était tout à fait réalisable, mais cela dit, il n'a pas tout à fait tort. Je pense que en dehors, on va pas revenir du problème structurel qui fait que faut savoir quel cap sportif tu veux donner. Est-ce que tu veux à nouveau t'appuyer sur la formation, la Genolière, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait moyen de faire mieux, et les matchs de cette fin de saison, c'est paradoxal, mais sont plutôt de très bons matchs de la part des Nantais.
Et on rappelle qu'il aurait fallu attendre donc le week-end dernier pour avoir la première victoire pour coach Vaïd, mais c'est vrai qu'il y avait eu des scénarios quand même très frustrants, notamment on se souvient également du match nul face à Brest avec cette expulsion que finalement même le corps arbitral avait reconnu être comme une erreur. On va parler évidemment aussi de Lens, et nous sommes avec Maxence qui est supporter nordiste. Salut Maxence.
Salut tout le monde.
Salut Maxence.
Maxence, tu as une fin de saison passionnante. La Ligue des Champions, bon, a priori, elle pourrait être d'ici 3 petites heures du côté du RC Lens. Il y a aussi la finale de la Coupe de France. On rappelle que vous êtes le seul club à ne jamais avoir gagné la Coupe de France tout en étant champion de France. Pour toi, c'est une saison pleinement réussie?
Oui, forcément, quand on voit notre budget et selon les attentes, avec un staff qui s'est remodelé, un nouvel entraîneur, un nouvel effectif. Oui, c'est une saison réussie. Après, on peut avoir quelques regrets, notamment quand on voit qu'on avait certains matchs à notre portée, notamment pour le titre. Donc, je pense à Monaco et d'autres matchs. Et sûrement dû à le fait que tout notre côté droit soit blessé. On pense à Baïdou, on pense à Antonio, on pense à Aguilar, on pense à Granit, qui étaient, on va dire, un peu tous blessés en même temps et qui nous a grandement affaiblis. On a dû faire avec Chelik qui est un peu bricolé. Bon, on va dire que ça s'est pas trop mal passé, mais on peut avoir quelques regrets sur ça. Mais bon, on va pas non plus se peindre. On a une finale à jouer. Et puis là, je crois que la Ligue des Champions, c'est à peu près assuré.
Oui,
Maxence, je te trouve timide, hein, quand même. Et t'imagines que si on t'avait dit au mois d'août, tu vas être là le 8 mai en train de disputer un match tranquille pour t'assurer peinard ta qualif en Ligue des Champions. Tu auras bataillé longtemps pour le titre et tu es en finale de coupe. Et non, je ne trouve pas très enthousiaste quand même. Hein.
Ah non, 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 je suis extrêmement enthousiaste. Je suis super content, vraiment. Je sais que la semaine prochaine, on va jouer une saison de fou. Mais sérieusement, j'étais hyper optimiste pour le titre. Et à partir du match de Monaco, on perd 3-2, on se fait remonter. Ça, on va dire que... Ouais,
tu l'as pas digéré.
Ouais, mais je crois que l'histoire. T'as raison, hein, c'était tout à fait envisageable. Mais l'équipe, quelque part, et Pierre Sage l'a un peu dit aussi dans cette fameuse interview, l'équipe qui tournait, c'était une équipe à 12, 13, 14. C'est-à-dire vraiment l'équipe type, elle était là. Et tu sais que dès que t'es sorti de ça, tu as commencé à avoir des soucis. Le premier, c'était Gradit, qui a été plutôt bien géré. Mais ensuite, quand ça s'accumule, c'est un peu plus compliqué. Et à ce niveau-là, face à un PSG, même parfois en rotation, tu es quand même en difficulté dès qu'il te manque des joueurs. Donc évidemment que tu as pu rêver, mais sur le papier c'était difficile d'envisager d'avoir tes 12, 13, 14 joueurs titus parfaitement en forme de A à Z. Et ça, Pierre Sage l'a sans doute ressenti. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, je vais te dire, c'est pas la fin de saison qui est géniale à vivre.
C'est la prochaine.
C'est la prochaine.
Et justement,
que, ouais. c'est plutôt vers ça que tu vois, je comprendrais des inquiétudes potentielles sur l'avenir de Pierre Sage, de certains joueurs, etc.
On va en parler justement avec toi, Jibo, parce que Flo a raison, on sait forcément que Lens travaille déjà sur la saison prochaine avec cette Ligue des Champions qui est vraiment à portée de main. C'est quelle est la tendance? On se souvient que la dernière fois que malheureusement ils ont joué la Ligue des Champions, ils avaient fait exploser le budget et Arnaud Pouille avait fait de graves erreurs. Donc là, il ne faut surtout pas refaire les erreurs qu'on a commises il y a quelques saisons.
Bah ça c'est clair, parce qu'en fait les choses sont déjà écrites, c'est-à-dire que notamment pour les fins de contrat, les dossiers les plus importants, c'est Malang Sarr et Adrien Thomasson. Alors il y a des bruits comme quoi Sarr pourrait partir en Arabie Saoudite. Pour l'instant le club, en tout cas moi on n'a pas de confirmation à l'instant T, c'est pas, il y a rien de signé. Mais ils vont pas augmenter significativement. Il y a une proposition sur la table. J'en ai parlé avec des personnes du club. Et ça ne devrait pas évoluer. Peut-être qu'une finale de Coupe de France gagnée, peut-être qu'avec la Ligue des Champions, il y aura peut-être un petit effort de fait, mais il n'y aura pas de folie. Il n'y aura plus d'achat de joueurs comme Eli Wahi à l'époque, 30 millions d'euros. Enfin, vous imaginez, le budget de Lens aujourd'hui, c'est 60 millions d'euros. Ils vont forcément rajouter plus de 50 avec la Ligue des Champions. Mais ça sera, oui, il faudra recruter malin, comme ils l'ont fait cette année. Mais Jean-Louis Lécas s'attend forcément, et même les dirigeants lensois s'attendent à une saison beaucoup plus compliquée l'année prochaine avec la gestion de la Ligue des Champions, le championnat, parce que refaire ce qu'ils ont fait cette année, ça sera très quasiment impossible. Et ils vont se rattaquer sur plein de dossiers, hein. Sangaré, il a des propositions en Première Ligue, c'est pour ça que c'est intéressant ce soir de voir Haïdara Bulatovic, puisque Thomasson et Sangaré possiblement ne seront plus là la saison prochaine. Baïdou, je pense qu'il va rester parce qu'il était très bon début de saison, mais sa blessure fait que ça va se donner un petit peu plus de facilité à le garder l'année prochaine. Mais oui, ça va pas être simple l'intersaison. Il y aura encore des mouvements, mais il y aura pas de folie. Je crois que le budget de recrutement va tourner autour de 25 millions d'euros au total.
Enfin, t'as rien pour 25 millions.
Bah oui, mais t'as acheté Sangaré 8. T'as acheté Tovin 6.
Oui, mais après, quand tu joues la Ligue des Champions, tu sais que les prix sont quand même plus élevés aussi, Jibo. Là, c'était des prix non Ligue des Champions.
Oui, mais tu vas pas jouer la saison prochaine en disant on va rejouer la Ligue des Champions. Tu feras au mieux, tu essaieras d'être pas ridicule en Ligue des Champions, mais tu te mettras pas dans le rouge, ça c'est certain. Ils vont pas l'économie du foot français est tellement compliquée, en plus avec les droits télé qui sont misérables entre guillemets, ils peuvent pas se permettre de faire un crash.
L'OM a prouvé que pour 120 millions t'as rien non plus.
Oui,
donc
voilà.
Quelque part autant recruter un petit peu.
C'est sûr que l'exemple marseillais n'est rarement le bon, mais c'est vrai que Flo, il y a des postes toi clés qui doivent être ciblés pour la saison prochaine, pour essayer de faire voilà une campagne honorable, potentiellement les barrages.
Alors déjà je pense que le cas Thomasson est un cas très intéressant et très important pour l'effectif, mais moi j'irais même tout de suite sur le banc de touche. C'est parce que moi je pense que la question va se poser pour Pierre Sage sur le fait de rester ou pas, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il peut anticiper lui aussi ce que tu expliques, c'est-à-dire la difficulté de la saison d'après avec un budget de recrutement plutôt limité. Il a deux trois trucs comme je disais les errements, la médicaux qui lui ont déplu. Bref, moi, à mon avis, c'est ça la question. C'est l'architecte.
Parce que, donc, t'as peur d'un mariage qui aura duré qu'une année?
Ouais, absolument. J'ai peur de ça. Et évidemment, je sais que ça fait peur aussi aux Lensois parce que bah, les supporters sont attachés à juste titre à Pierre Sage. Je pense que si tu es sur ces données-là, c'est-à-dire un budget de recrutement limité pour jouer la Ligue des Champions, pour être à la hauteur en Ligue 1 sans forcément jouer le titre, tu sais que c'est l'architecte qui va définir tout ça et qui va décider, y compris sur le recrutement. J'ai toute confiance en Jean-Louis Leca pour réaliser des bons coups, parce que ce qu'il a fait quand même, y compris pour Saint-Maximin récemment, ou Flotovin, ce sont de vraies réussites. Mais pour le budget, à la limite, pour les idées, je suis pas inquiet, puisque Hudson-Edouard, Thauvin, Saint-Maximin, toutes les idées étaient bonnes. Baïdou, même si on le connaissait. Donc, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est quel projet, quel cap, et avec quel architecte, c'est-à-dire quel entraîneur sur le banc.
Gibault, rassure-nous.
C'est vrai que c'est une question. Non, mais c'est pas.
Ah, tu vas nous inquiéter. Je pensais bien dormir ce soir, mais finalement, je suis pas sûr.
Écoute, moi, depuis ce qui s'est passé à Brest, je me dis que. Je sais que, bon, sa sortie n'a pas non plus été hyper appréciée, mais il y avait eu le cas de Baïdou. Il a fait une communication où il disait oui, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, bon, c'est que le staff médical ne voulait pas prendre le moindre risque d'une rechute parce que la fin de saison était hyper importante. Ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû recruter un défenseur central lors du mercato d'hiver parce qu'ils pensaient pas que Baïdou serait été aussi long et le jeune Celik s'était trop limité pour être titulaire indiscutable. Et on l'a vu parce qu'avec lui, Lens a pris quelques raclées et a perdu beaucoup de points. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté trouble en fin de saison sur la situation de Pierre Sage. On a entendu aussi la possibilité de voir Yannick Cahuzac revenir au club. Hein. Il était adjoint de Francaise il y a quelques années. Il peut pas. On serait surpris de rien de toute façon. Moi j'ai connu Galtier champion de France avec le LOSC, qu'il a signé à Nice et ne pas jouer la Ligue des Champions. L'entente avec Olivier Létang n'était pas bonne. Donc tout peut arriver dans le football. On verra, mais je pense surtout c'est de bien finir, c'est de gagner cette Coupe de France. Et là je pense que ça sera un élément aussi déterminant. Si la coupe est gagnée, ça va faciliter les choses. Si c'est l'inverse, ça pourrait, moi je pense, casser peut-être une petite dynamique.
Ah oui, carrément. Maxence, le mot de la fin pour toi rapidement. J'imagine que tu veux que ça continue entre Pierre Sage et le RC Lens.
Oui, après, j'avais quelques infos, notamment sur le mercato, que peut-être tout le monde a, notamment sur une éventualité de Thorgan Hazard, et aussi, dans le cas de départ de Sarr, il y avait...
Thorgan Hazard, c'est quasi fait, hein.
Ouais, et il y a aussi, je crois, un défenseur qui était formé à Barcelone de 24 ans, de Las Palmas, qui devrait être libre, et qui devrait peut-être suppléer si Sarr venait à partir, mais en tout cas... Bah, super saison, j'espère que Pierre Sage partira. Et puis,
comment ça, t'espères que Pierre Sage partira?
Pardon, je me suis totalement. Je me suis
le lapsus, le lapsus terrible, Maxence.
Non, 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 quand même. Ouais,
non, non, non. Mais on a vu aussi que Cahuzac était un super entraîneur, c'est un entraîneur moderne. Donc, on va dire que c'est pas une catastrophe, mais je préférerais 100 fois Pierre Sage à Cahuzac. Hein, parce qu'on a vu, c'est un coach calme qui sait reconnaître ses erreurs, et ça, c'est forcément apprécié dans le vestiaire.
Merci beaucoup, mais Maxence, d'avoir été avec nous.
Oui, ça sera un choc comme Francaise quand il est parti. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Après, le foot est tellement maintenant ça bouge tellement vite dans les joueurs.
Et en dehors Gibault et des dossiers qu'on vient d'évoquer et de la saison suivante et des problèmes budgétaires et des soucis qu'il y a eu en cette fin de saison. Il y a tout simplement le fait que ce coach-là, qui mine de rien est arrivé dans la carrière un petit peu plus tard que d'autres, va avoir des trains à passer et des propositions à arriver. Et c'est déjà le cas. Et déjà dans la saison, il en a eu, en milieu de saison, avec des clubs qui changent d'entraîneur.
Comme Genesio, aller chercher un gros contrat
chercher ou pas, c'est-à-dire que non, pas forcément au bout du monde. Non, je pense vraiment à des championnats majeurs. Et il a marqué les esprits. Et déjà dans la saison, il faut savoir que c'est logique. Quand des clubs... soit anglais, espagnol, change de coach, il regarde et Pierre Sage fait partie de shortlist de pas mal de clubs. Donc c'est évident que pour lui, il ne peut pas ne pas regarder en tout cas les propositions de clubs importants quand elles se présentent à ce moment de sa carrière. Donc il y a évidemment dans la balance son évaluation de ce qui va et ce qui va pas à Lens, et peut-être on va dire son évaluation de la saison prochaine. Mais il y a aussi tout simplement la vie du foot qui fait que quand tu réussis une saison, que tu sois joueur ou entraîneur, oui, tu peux avoir envie de passer un cap et d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs en tout cas pour réaliser quelque chose de fort dans un championnat important.
Merci beaucoup Maxence d'avoir été avec nous au 32-16. Belle soirée à toi et puis belle finale évidemment de Coupe de France, ça sera face à Nice. Messieurs, dans quelques instants on va reparler de Nantes parce que Nantes est au bord du précipice, on le rappelle, on sera avec des supporters nantais pour parler de l'actualité mais aussi de l'avenir parce que Nantes devra se reconstruire a priori en Ligue 2. On vous rappelle coup d'envoi de ce match à 20h45 qui lance la 33e journée entre Lens et Nantes. À tout de suite.